C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.
François Liberty, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous votre set, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous l'espérons, pour celui des auditeurs de Divergence. François, vous êtes d'origine italienne. Votre épouse d'origine espagnole, et quand on lit votre parcours au service de l'humain, on peut se tromper, dire que Seth et vous, c'est du pareil au même. Mais dites-moi, François, est-ce que Seth vous a rendu la passion que vous avez pour elle ?
Je crois qu'on peut le dire comme ça, même si après il y a beaucoup de doutes, même si après il y a parfois beaucoup de revers dans la vie, mais quand même, quelle belle ville, parce que cette ville est née du port, et un port c'est pas seulement un lieu où on échange des marchandises, c'est d'abord un lieu où c'est un échange humain d'hommes, de femmes, de cultures différentes, de savoir-faire différents. Et la construction de la ville, qui est née du port, elle est née d'abord de cette volonté d'un comptoir maritime nouveau sur la Méditerranée, d'abord pour le commerce, ensuite pour la pêche, et qui a donc généré cette configuration d'un lieu qui est né précisément de la présence de tous ceux qui sont venus d'ailleurs. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... bouleversé dès le départ, dès mon enfance, d'avoir baigné dans ces racines-là.
Mais ils sont venus de la mer, d'ailleurs, parce que cette, quand même, c'est d'abord la mer.
Oui, mais vous voyez, quand le port a été créé, les premiers qui sont venus, c'est Vénol. C'est des gens de l'Aveyron, qui étaient des tailleurs de pierre et qui sont venus tailler la colline de Saint-Clair pour faire les premiers ouvrages portuaires. Certains sont partis, d'autres sont restés. Ensuite, le port qui a commencé à avoir son activité dans le domaine du négoce maritime a vu des négociants du centre de l'Europe s'installer à Sète, par exemple la Suisse, qui n'avait pas de port. Et nous avons eu un consul suisse jusque dans les années 70 à Sète avec une compagnie maritime dont Sète était le port d'attache.
D'accord.
Vous voyez, et puis après, il y a eu les successions d'immigrés qui sont venus du sud de l'Italie pour fonder, au fond, les activités de pêche. Tout azimut, la Catalogne également, ensuite le Maghreb, ensuite... L'Afrique noire, pour les contingents de matelots qui se sont embarqués à bord des bateaux. Et on peut dire que, bon, à la fois la mer, mais en même temps aussi déjà, à l'origine, les gens qui sont venus du centre de la France pour faire cette ville ce qu'elle est devenue.
Mais si je parle de la mer, c'est pas pour rien. C'est parce que la mer et vous, c'est une sacrée histoire.
Ah, grande passion. Vous savez, du côté de mon grand-père, qui est arrivé du sud de l'Italie, de Gaète, c'était tous des pêcheurs. Mon père, qui est né à Sète, pêcheur. Du côté de ma mère est bretonne, par contre. Et tous mes oncles et toute la famille de ma mère, c'était aussi des pêcheurs bretons. Ce qui fait que je suis un peu tombé dans la marmite dès ma naissance. Et puis, j'habitais un quartier du port. La rue Lazare Carnot, qui était à 20 mètres du chenal maritime. La mer était mon paysage du quotidien. Et donc, cette passion, je l'ai eue très, 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 très jeune, avec, dès le départ, l'idée d'en faire mon métier.
Mais parce que, si j'ai bien compris votre parcours, au début, votre père n'était pas trop chaud pour que la mère et vous, ça aille ensemble.
Ah, mon père n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout, même.
Et pourquoi ?
Il n'était pas d'accord parce qu'il disait, c'est surtout le métier de pêcheur, parce que c'est un métier... on ne gagne pas forcément sa vie, on est payé au jour le jour, à ce moment-là on était payé à la semaine, si tu pêches tu gagnes, si tu pêches pas tu gagnes rien, donc beaucoup d'incertitudes, hein. Un métier dur, métier dangereux, mon père qui avait pratiqué tout ça, bien il aurait voulu que je fasse de grandes études, que je fasse autre chose, etc., mais bon, voilà, j'ai été testard et puis j'ai dit non. Donc
en fait, vous faites partie des gens qui ont décidé de leur vie.
Je crois.
Déjà tout jeune.
J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, avaient de la conviction, voilà, mais en même temps qui m'ont laissé guider ma vie, même si parfois ils n'étaient pas d'accord. Et j'ai eu cette chance-là, tout le monde ne l'a pas. Moi, je l'ai eu. Et ensuite, c'était à la fois une passion, mais en même temps, j'avais l'envie de réussir dans ce métier. Et voilà, vous savez, mes premiers mois de navigation, j'étais encore scolarisé au collège Victor Hugo.
Oui.
En troisième, on avait le droit, pendant les vacances scolaires, de s'embarquer comme mousse à bord des bateaux. Et mes deux premiers mois de navigation, je les ai faits, j'étais encore scolarisé. Et dès que je suis sorti du collège, je me suis embarqué comme un matelot sur un chalutier, et puis j'ai commencé cette aventure maritime qui ne m'a jamais quitté.
Mais je voudrais, parce que je connais un peu votre parcours, et il y a une chose dans votre parcours qui me fascine, dont j'aimerais que vous me parliez un peu, c'est la pêche en apnée.
Oui.
Parlez-moi de ça, des sensations. Parce qu'on ne peut pas être plus près de la mer.
C'est extraordinaire. Moi, je suis ado, avec les copains de la rue. On avait la plage du Cursal qui était à 500 mètres de la maison. On jetait le cartable dans le couloir. On prenait deux palmes, un masque, un tuyau et on se mettait dans l'eau. On n'avait pas d'équipement sophistiqué, mais... cet attrait de la mer, la passion, en même temps, c'était l'époque de Cousteau, avec toute l'imagerie sur le monde du silence.
Oui.
Et on l'a vécu, ça. Sur cette côte, on l'a vécu, et c'est formidable. Le monde sous-marin est quelque chose de formidable.
Mais ça fait quoi, pêcher en apnée ? C'est quoi, les sensations ? Parce que quand même, c'est pas n'importe qui ne fait pas ce métier.
On était quand même un certain nombre à le faire. Hein. Moi, j'ai commencé par le faire à part passion, pour pêcher, pour voir la mer, voir du poisson, etc. La beauté de la faune et de la flore était extraordinaire. Et puis, j'en ai fait mon métier. J'ai commencé à plonger pour ramasser le naissaine de moule naturel qui se grappe sur les rochers, pour pouvoir l'arracher et ensuite en faire le naissain qui sert à l'élevage des moules dans les tanneaux.
Voilà. Mais ça, d'accord, vous me parlez du travail, mais moi, ce que j'aimerais, parce que je suis tout à fait novice, et c'est une chose que je ne connais pas, parce que ça fait quelle sensation de retenir sa respiration, et est-ce que ça vous est arrivé de plonger pour le plaisir ?
Ah oui, toujours.
Et pourquoi ?
Toujours.
C'est-à-dire sans rien faire, sans chercher quelque chose. Le plaisir, comme si vous alliez vous incorporer à l'eau, au fond.
Mais tout à fait, mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ça a un côté où il faut faire très attention, parce que, surtout quand tu ne plonges pas en bouteille, mais quand tu plonges en apnée, d'abord, il faut apprendre à retenir son souffle, à respirer, etc. Mais après, une fois que tu es dans le milieu, que tu descends, moi j'arrivais à descendre jusqu'à 20-25 mètres en apnée, faisant 3 minutes d'autonomie, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, l'ivresse ça existe. Hein.
Tu as
un peu le sentiment que tu peux tout te permettre, etc. Et non. Voilà.
Parce que moi j'ai jamais eu le courage ni la capacité de plonger en apnée. Mais ça m'est arrivé dans la Méditerranée de rester en surface avec un masque.
Ouais.
et d'éprouver une sensation presque d'ivresse, oui, en ayant l'impression, au fond, d'être un oiseau. Parce que quand on voit bien, et on voit bien en Méditerranée, d'un seul coup, paf, il y a un creux, d'un seul coup, c'est comme si, en fait, on était au-dessus d'une montagne, parce que c'est pas plat, dessous.
Non.
Et donc ça donne une sensation. Moi, je me rappelle des fois, je me dis, oh là là, tu vas tomber, alors qu'en fait, non. Et ça, c'est un truc étonnant que au fond, l'eau et l'air puissent avoir par moments ce genre de ressemblance et où on peut se dire, mais je suis un gabian, enfin, je prends le Mistral et je ne bouge pas.
Ben, vous venez de décrire d'ailleurs d'une manière parfaite la sensation effectivement qu'on a. Et j'ai presque envie de dire que ce qui est beau aussi, c'est quand tu arrives à déceler les habitudes des poissons, etc. Ben tu mimes un peu.
Ouais.
Tu arrives à mimer et ou même à prévoir leur mouvement, leur voilà, c'est la beauté quoi de la plongée, c'est extraordinaire. Et,
bon.
Et là aujourd'hui, j'ai presque 78 ans, ça m'arrive encore de t'en aller.
Eh ben bravo. Bon, alors, puisque ça vous arrive de jouer encore, parce que c'est un jeu maintenant.
Oui, tout à fait.
On va jouer un petit jeu ensemble. Je vais vous poser des questions et puis vous allez répondre, mais le plus vite possible. Si 7 était une couleur, ça serait quoi pour vous ?
Le bleu.
Le bleu, évidemment. Et alors, puisqu'on en parlait, et si c'était un poisson ?
Le poulpe.
Le poulpe, évidemment, encore. Et si c'était une plante ?
Une anémone.
Une anémone. La fleur.
La fleur.
D'accord. Il y a aussi des anémones de mer. Hein, c'est... Donc, elle a le double. Si c'était un prénom.
Difficile de dire.
Le premier qui vient. Premier.
Alice.
Alice. Et un monument.
Un monument.
Pas forcément de 7.
Oui, bien sûr. Surtout pas d'ailleurs. pourquoi pas. Une coupole.
Une coupole, d'accord. Et enfin, si c'était une musique.
Une musique. Le. Je vois pas là. Une musique. Je sais pas quoi vous dire là.
Une chanson.
La mer de traîner.
La mer de traîner. Donc, Alice va nous chercher la mer de traîner. Et pourquoi la mer de traîner ? Parce que le même titre, le même mot
ou... Oui, aussi. Ou le côté mimétisme du mot, la beauté que ça représente. La mer, pour moi, c'est un peu le symbole de la beauté.
Voilà. Ah, le symbole de la beauté. La mer qu'on voit danser au fond des golfes clairs, c'est ça ? Voilà. Eh bien, c'est bon, Alice, on va écouter un peu traîner.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur.
Je ne pense pas, Charles Trenet n'était pas c'est toi.
Non.
C'est quand même une chanson que vous avez très bien choisie, d'une certaine manière.
Mais parce que... il était assez méditerranéen, parce que si je ne me trompe pas, c'est à Narbonne qu'il a... qu'il avait travaillé cette chanson.
Ah oui, et bien alors,
sur le littoral méditerranéen.
C'est pas très loin, oui, voilà. C'est la mer Méditerranée. C'est pas tout à fait de la même manière que celle de Beko la voyait.
Oui, savez, bien sûr.
Mais Beko fait, comment dire, la mer et la mer Méditerranée qui est à deux pas, vous voyez, il joue avec les galets. Alors que là, il y a dans cette musique une espèce de danse, de comment dirais-je, qui va assez bien à cette...
Oui, tout à fait. Tout
François
à fait.
Liberty, nous sommes de la même génération, à 4 ans près. La génération que j'appelle, moi, celle d'après Hiroshima, parce que Hiroshima 45, c'est une... Dans mon imaginaire à moi, et pas que dans mon imaginaire, c'est une date qui n'est pas rien. Donc nous avons connu, et vous et moi, la même chose, c'est-à-dire un pays à reconstruire. C'était quelque chose de merveilleux, c'était les jours heureux, c'était « on va le reconstruire différemment ». Les gens qui s'étaient battus dans les maquis se sont dit « on va essayer de bâtir une société dans laquelle on sera conviviaux, dans laquelle ça... » Comment dire, voilà, et qu'est-ce que ça a donné?
Eh oui, c'est pas... ça a été un brève, hein, de ce point de vue. Ça a été très... C'était une utopie qui a donné de l'énergie dans les mobilisations sociales, dans l'intelligence du savoir-faire, dans des objectifs émancipateurs par rapport à l'homme. Je trouve que cette période-là, moi je me suis ouvert à l'activité militante sur les batailles pour la paix avec la guerre d'Algérie.
C'est ça.
Moi, la guerre d'Algérie, pour moi, c'est la vision du quai d'en face de chez moi qui stockait les véhicules militaires, hein, qui stockait les soldats du contingent qui partaient sur les bateaux en Algérie, qui stockait aussi les cercueils quand ils revenaient.
Oui.
Et cette vision d'horreur, moi j'avais 13 ans à ce moment-là, cette vision d'horreur, on ne comprenait pas tout. Mais on comprenait que ça, c'était pas bien, quoi.
Et c'est étrange, quand si je peux me permettre de faire un parallèle, hein, puisque je disais donc que c'est un parallèle de génération. Moi, j'étais arlésien à cette époque-là. Et mes parents me traînaient dans des réunions de ce qu'on appelait à l'époque le mouvement de la paix.
Oui.
Et c'est là que j'ai rencontré, j'étais minot, des militants. Je ne comprenais pas trop bien ce que la politique pouvait bien signifier, mais je me souviens d'avoir été mouflé, impressionné par la qualité humaine de ce que j'appelle à cette époque-là, aujourd'hui, je ne sais pas, un militant. Mmh. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est engagé dans... Et moi, j'étais trop gamin, mais vous, quand même, ça vous a accroché à ce moment-là.
Oui, parce que, vous voyez, je voyais des militants pacifistes, hein, qui se mettaient sur les rails.
Oui.
À 500 mètres de la gare pour empêcher les trains
oui.
d'arriver en gare de Sète et oui. débarquer les soldats du contingent.
Oui.
Ils faisaient ça.
Oui.
Ils se faisaient, bien évidemment, lever par les flics, par l'armée, etc. Je voyais ça et ça m'impressionnait que des gens puissent mettre leur vie comme ça, en travers des rails,
oui.
pour empêcher d'autres de partir à la guerre.
J'ai lu ça, je savais ça. Et quand je l'ai lu, il m'est venu une idée idiote. Hein, mais comment se fait-il qu'en 59-60, dans
c'était
ces 60, années-là,
il
y avait des gens en France capables de se coucher sur des rails, alors que personne ne s'est couché sur des rails pendant la guerre devant les convois qui partaient dans les camps.
Eh oui. Pourquoi? Eh oui.
Et pourquoi, d'après vous?
Parce que peut-être il y a eu une prise de conscience qui s'est faite, hein, qui a grandi de ce point de vue. Vous savez, au début de la guerre d'Algérie, moi j'étais trop jeune, je n'ai pas vu. Il y avait majoritairement dans le pays des gens qui considéraient que ceux qui réclamaient l'arrêt de la guerre et l'indépendance du peuple algérien, c'était contraire aux intérêts de la France, hein. Et puis
sûr,
ça a basculé.
Bien sûr, bien sûr.
Ça a basculé.
D'ailleurs, c'est marrant, parce que, enfin, c'est marrant, le terme est vraiment mal choisi, mais c'est étrange, puisque, je ne sais pas, presque 70 ans plus tard, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que l'armée française a fait en Algérie, et pas simplement pendant la guerre d'Algérie, avant, au moment de la conquête. Hein. C'est comme ça que ce malheureux Michel Apathy, qui vaut ce qu'il vaut par ailleurs, mais s'est fait reprendre en rappelant qu'est-ce que c'était que cette histoire de colonisation. Et c'est pas rien, mais... Il y a eu après l'Algérie l'aménagement du territoire. Et ce qui est merveilleux, alors là, franchement, c'est qu'au fond, un militant de la CGT, si j'ai bien compris, qui était maire de Sète, a sauvé Sète de la bétonisation.
Bien sûr.
Et ça.
C'est Pierre Arrault.
C'est étrange.
Pierre Arrault, qui était. Cheminot, donc quelqu'un qui est sorti de la guerre avec son engagement dans la résistance faire, qui a été condamné à mort, qui s'est évadé des prisons,
ouais.
Qui est devenu le premier maire de Sète, hein, et dans son premier mandat, puisqu'il a été élu en 59, c'était un maire communiste, il a été élu en 59. Et dans le début des années 60, avec De Gaulle, et la mission Racine,
oui,
est venue nous apporter la Béliance méditerranée, et il a refusé.
C'est étrange, parce que moi j'ai travaillé dans la région parisienne, en particulier à Mantes-la-Jolie, pour citer l'endroit. Et un jour, quelqu'un m'a raconté, De Gaulle, avec Paul Delouvrier, qui était aussi quelqu'un de son entourage, ils sont arrivés dans la plaine, un peu au-dessus de Mantes-la-Jolie, il n'y avait rien là. Et De Gaulle a dit, s'il vous plaît, Delouvrier, faites-moi une ville. Et ils ont construit le Val-Fouré, qui est un quartier qui, par la suite, a fait énormément parler de lui. Et quand on regarde la côte méditerranéenne, disons, grosso modo, entre les Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est un peu plus loin, disons, le Gros-du-Roi, grosso modo, et après, tout est défiguré.
Oui, bien sûr.
Sauf, alors, Sète n'a pas totalement échappé à ça, mais enfin, quand même, beaucoup.
Après. C'est après, on a été rattrapés après.
Mais dites-moi quand même.
Mais à cette époque-là, ça a été le seul cordon littoral sur 25 kilomètres qui a échappé à l'aménagement Mission Racine.
C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, moi, parce que jamais j'aurais pu aller dans une ville dans laquelle... Mais enfin, quand même, il fallait être gonflé pour refuser de serrer la main à De Gaulle et de lui dire « Vous rentrez pas dans ma mairie ».
Ça a été une épreuve... pour un certain nombre de gens, on n'était pas loin de c'est l'après-guerre. Les communistes avaient participé avec les gaullistes à la bataille de la libération, et là, De Gaulle, avec tout l'aura qui est le sien, il amène ce que certains conservateurs et puis les milieux financiers disaient la manne pour le développement économique de la Méditerranée, et comment ce maire... Il refuse cette manne, a le culot de refuser
mais
cette manne.
Je n'ai jamais été gaulliste, mais quand même, on peut dire ce qu'on veut de De Gaulle, mais c'est un homme qui...
Ah ben, bien sûr.
C'était pas n'importe qui, d'accord ?
Mais oui, bien sûr.
Et je suppose qu'il, d'une certaine manière, il a dû apprécier.
Je pense aussi. Parce que les gens de caractère, c'est quelque chose qu'il appréciait.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu un papa, un père qui m'a formé, qui m'a appris. Mais c'était un homme qui avait de l'autorité. Et quand j'étais mouflé et qu'il me faisait la leçon, je rigolais. Et j'avais pas peur de lui. Et toute ma famille me disait, mais Yves, tu vas te faire hacher menu. Mes frères et sœurs qui n'avaient pas connu ça du tout. Et je disais, non, vous inquiétez pas, je pense que papa, il aime bien qu'on lui résiste un peu. Et j'ai découvert progressivement que mon père avait un respect pour moi, parce qu'il se disait, le gamin, il n'a pas peur, et il ose.
Et, mais, voilà. Et alors, moi, ce qui m'a frappé, en relisant, parce que moi, j'étais trop jeune au moment où ça s'est passé, j'avais une dizaine d'années, De Gaulle a été reçu sur le pas de la mairie.
C'est ça.
Le maire a refusé de le faire monter dans la mairie.
Rentrer, hein.
Et De Gaulle a fait une intervention comme il savait la faire, grandiloquente, etc. il n'a pas dit un mot de réprobation vis-à-vis du vin.
C'est ça. Ah oui, vous voyez, je pense qu'au fond, voilà, mais si on continue, parce que malheureusement, on n'a pas tout le temps devant nous, il y a une dernière chose, parce que là, on va arriver sur 7, les jours heureux, on prévoyait je ne sais pas quoi, et tout, alors l'Algérie, De Gaulle, tout ça, et puis surtout après la désindustrialisation. Et si j'ai bien compris, la désindustrialisation a touché cette de plein fouet.
Lourdement, dans les années 80, on a perdu d'une manière consécutive la raffinerie de la Mobile, la Farge, qui fabriquait le ciment, les usines d'engrais, une réduction de l'activité portuaire.
Ce que c'est, pardonnez-moi de vous couper, mais surtout ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on a perdu du monde. Et la population a changé.
Tout à fait.
Et donc, est-ce que la ville a changé aussi avec la population ?
Oui, bien sûr, la sociologie de la ville a changé. Mais la caractéristique de cette ville, et moi c'est ça qui me fascine d'ailleurs, c'est que même avec cette sociologie de la ville, les apports nouveaux de gens qui sont venus ont aussi intégré les facteurs de défense de cette ville, l'envie qu'elle reste belle, l'envie qu'elle ne soit pas abîmée, l'envie qu'elle reste avec toutes ses racines. Moi, ça m'a... Je ne dis pas que tous ceux qui sont arrivés après ont porté cette image-là, mais beaucoup. Et moi, je tiens beaucoup à cette idée de... Vous voyez, laissez-toi d'hier et laissez-toi d'aujourd'hui. C'est ça, la population de cette aujourd'hui.
Ça justifie une chose, si j'ai bien compris, une manière que vous avez, vous, François Liberty, de caractériser cette en disant c'est une ville d'accueil.
Tout à fait. Mais c'est une ville d'accueil qui a une âme. C'est pas une ville d'accueil où on vient pour faire que du business. C'est une ville... Où on vient se mélanger, où on vient partager, où on vient construire ensemble, produire du savoir-faire. Moi, je l'ai vécu, moi, dans mon métier, dans l'exercice de la pêche, où les vagues successives de gens qui sont arrivés d'ailleurs ont apporté aussi leur savoir-faire et ont donc donné beaucoup de qualité à ce qu'est devenue cette activité. Mais regardez le monde culturel. On parle de Dirosa. On parle de Combas, on parle de Zarwati, on parle de Cervera, mais c'est tous des enfants d'ouvriers, tous des gens dont les parents et les grands-parents sont venus d'Italie, d'Espagne, du Maghreb. C'est ça qui fait la richesse.
Une dernière question personnelle, François Liberty. Quand vous êtes triste à 7, vous allez où ?
Je vais au bord de l'eau.
Au bord de l'eau.
Parce que voir la mer, ça me boulègue, hein, comme on dit ici, et puis ça me redonne le moral.
Et quand vous êtes gay ?
Aussi.
Aussi. Mais c'est merveilleux. François Liberty, on est au bout de notre entretien, c'est passé tellement vite.
Oui.
Mais je ne peux que conseiller aux auditeurs de Divergence, s'ils veulent savoir plus, et Dieu sait s'il y a plus à savoir sur vous, on n'a pas du tout parlé de votre activité politique, mais ce n'était pas le jeu de raconter cette.
Tout à fait.
D'accord ? Si les gens veulent connaître votre activité politique, qu'ils achètent votre livre, c'est au service de l'humain. C'est un très, très, très beau titre. Je ne doute pas un instant que vous l'avez fait avec tout votre cœur.
Bien sûr.
Je vous remercie beaucoup, François, d'avoir accepté que je vous reçoive et de l'entretien qu'on vient d'avoir tous les deux.
Merci beaucoup. Merci.
Si, devant que vous voulez passer à raconter-nous votre recette, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez aller sur le site de Divergence et puis proposer. Je vous recevrai avec le plus grand plaisir. Et je dis à tous les auditeurs au revoir et à bientôt.
Cette est une sorte d'île située entre la mer et les tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.